Bienvenue Xavier Darcos sur le plateau des mots politiques. Bonne année à vous et bonne année à tout le monde. Avant de plonger dans le bain de la politique, on va revenir aux fondamentaux avec un livre que vous publiez aux éditions Plon, un dictionnaire amoureux de la Rome antique. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation, ancien ministre du Travail, et vous êtes actuellement ambassadeur et président de l'Institut de France, c'est-à-dire chargé de l'action diplomatique de la France à l'étranger. Comment vous avez décidé, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce dictionnaire qui est copieux ?
La vérité, c'est une commande. On m'a dit, mais je crois que tu connais un peu le monde romain, tu l'as enseigné longtemps, est-ce que ça t'intéresse ?
Un peu, c'est un euphémisme.
Enfin, en tous les cas, j'ai été plus longtemps professeur de lettres classiques que je n'ai été ministre ou homme politique. Et donc, on m'a demandé si ça m'intéresserait. Et de fait, ça m'a beaucoup intéressé. C'était une très belle idée, parce qu'on travaille à son rythme, on peut choisir ce que l'on veut, on n'est pas obligé d'être exhaustif. Et finalement, c'était plutôt amusant à faire.
Alors, donc, c'est un dictionnaire, à la lettre S, Suave Mari Magno, le début du De Naturarum de Lucrèce. Depuis que vous ne faites plus de politique, est-ce que vous observez comme ça la vie politique ? Je rappelle que donc, c'est « Il est doux, quand la vaste mer est soulevée par les vents, d'assister du rivage à la détresse d'autrui
». Alors, je ne suis pas à ce point sadique. Ce que dit Lucrèce, c'est que c'est agréable d'échapper à des mots dont on a le spectacle. Bon. C'est le début du deuxième chant du De Naturarum. Ce que je crois en tout cas, c'est que l'expérience politique est utile pour le reste de la vie, mais que dès qu'on la quitte, dès qu'on quitte la joute politique, on se rend compte quand même de sa brutalité, parfois de sa vulgarité, et qu'il est rare qu'on en ait vraiment la nostalgie. Moi, j'ai beaucoup aimé être dans l'action publique, j'y serai peut-être à nouveau, je ne sais, mais... lorsqu'on est dedans, on ne se rend pas compte à quel point on est en souffrance, en tension, en inquiétude permanente, confronté à beaucoup de tensions.
C'est-à-dire qu'on est déconnecté très vite du monde réel ?
Non, mais on croit que c'est normal de vivre comme ça, et quand ça s'arrête, on se dit, mais comment est-ce que je supportais d'être dans une telle tension permanente ? Donc, de fait, on a ce sentiment épicurien de mieux profiter des choses les plus ordinaires de la vie, précisément parce qu'on compare à une période où on croyait que les choses allaient de soi, alors qu'elles étaient en fait assez tendues, assez difficiles.
– Alors ce que vous expliquez aussi dans cette notice, c'est qu'il y a quand même effectivement un aspect spectateur, vous dites la vidéocratie, de ces gens qui sont là en train de contempler les déchéances d'un Eric Woerth, d'un Dominique Strauss-Kahn, les exemples…
– Alors de fait, ça pourrait paraître paradoxal, mais il y a un rapport entre le monde romain et le monde d'aujourd'hui qui est le besoin de voir. Le monde ancien était fasciné par l'horreur, par la violence. Souvenez-vous de ce qui se passe dans les arènes, dans les cirques. Saint Augustin raconte comment un de ses amis, qui était un homme tout à fait sympathique et naturel, a amené devant le spectacle des gladiateurs, perd complètement de sens commun, et surexcité à la vue du sang, et fasciné par cette horreur. Et il y a quelque chose de comparable aujourd'hui dans ce monde que j'appelle la vidéocratie, c'est-à-dire ce pouvoir qui est donné à ceux qui regardent, et qui en plus peut se commenter de manière anonyme, donc le dernier des crétins peut porter des jugements extrêmement sévères sur des gens tout à fait éminents, ou au contraire, faire en sorte que la violence du monde politique soit prolongée par des commentaires en créant des conflictualités supplémentaires. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose d'éclairant sur ce que les moralistes latins ont dit de cela pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
Même si aujourd'hui ce ne sont que des joutes verbales, malgré tout.
Ce sont des joutes verbales, certes, enfin, on a conservé le vocabulaire. On dit, il l'a tué, il l'a eu, il a fait la peau, c'est un combat, c'est la lutte finale. On utilise quand même un vocabulaire, une succession de métaphores qui renvoie quand même à un conflit à mort.
Alors vous dites que vous lisez tous les jours un peu de Tacite, c'est votre auteur apparemment préféré.
En tous les cas, plusieurs fois par semaine, oui.
Donc pourquoi cette passion pour Tacite ?
Peut-être pour la raison qu'on vient de dire, Tacite décrit avec beaucoup de dureté les horreurs d'une période particulièrement difficile pour le monde romain que furent les Julio-Claudiens. Caligula, Tibère, Claude, Néron.
Les fous se sont succédés au pouvoir.
Les Césars fous, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, en tous les cas, c'est l'impression qu'ils nous donnent aujourd'hui. Et la manière dont Tacite le décrit est une manière extrêmement froide, très ironique, très elliptique. On passe comme ça d'une idée à l'autre. C'est très surprenant, ça, la manière dont Tacite écrit, au fond. Et il y a comme quelque chose de mimétique entre l'écriture et la chose décrite, le heurt même de sa manière d'écrire. Et donc, j'aime Tacite pour son style, mais j'aime aussi Tacite pour cette adhésion de la langue au spectacle décrit.
Mais comment vous expliquez justement cette succession d'empereurs C'est fou, parce que vous dites c'est tel qu'on le voit aujourd'hui, mais enfin quand même, Caligula...
Oui, oui. Il y a une succession de personnages tout à fait fantasques. C'est aussi le tout début de l'Empire. C'est la première période, les 80 premières années, où quelqu'un peut être tout, où il existe un droit absolu sur la vie d'autrui, de système de proscription, de système de lèse-majesté, ou une toute puissance, une puissance folle. C'est ce que d'ailleurs comprend Canu lorsqu'il reprend le thème de Caligula, où le prince il dit pourquoi avoir le pouvoir si ce n'est pas pour en abuser. Hein, et donc c'est une sorte de jeu violent. Et puis ce sont aussi des personnages qui sont détraqués de toute manière. Néron, parce que c'est un homme qui se prend pour un artiste, fasciné par la culture grecque et qui joue sa vie sans arrêt. Et Caligula, parce que c'est sans doute un personnage... extrêmement marqué par le sadisme, par un besoin de terroriser autrui, par une espèce d'humour noir à la limite de la folie, qui devient à la fin complètement dément. Enfin, tout ceci nous est rapporté par Suétone, qui écrit beaucoup plus tard, qui écrit à l'époque, après, au IIe siècle, à une époque où les choses sont stabilisées, et qui est peut-être évidemment un peu excessif. Enfin, il n'empêche, c'est une période difficile.
Et qu'il y avait une absence de contre-pouvoir. Alors, sinon, vous avez aussi des héros dans ce livre. Quels sont vos héros, justement, préférés ?
D'abord, ce sont des grands auteurs. Hein. J'ai une grande admiration pour les poètes latins, en particulier pour Virgile, pour Ovide, pour Horace. J'en parle. Ils ont inventé une forme de littérature qui nous a marqué jusqu'à aujourd'hui, qui a traversé complètement.
Et dans les hommes politiques ?
Dans les hommes politiques, j'aime évidemment... les empereurs les plus équilibrés comme Adrien, j'admire des gens comme Tite Live,
j'aurais pensé que vous me citeriez Cincinnatus.
Alors j'aime Cincinnatus, mais alors ceux-là ce sont presque des héros un peu légendaires, alors, on ne sait pas, il y a une part de reconstruction, les Romains ont construit une morale à travers des exemplaires comme ils disaient eux-mêmes.
Quelqu'un qui vient pour prendre le pouvoir.
Alors Cincinnatus est présenté comme un homme qui s'est retiré, qui est en train de travailler à la campagne, qui est en train de tirer sa charrue, et comme c'est la pagaille la plus générale à Rome, on vient le chercher, on lui tape sur l'épaule, il dit écoute, laisse tomber ton sillon et devient le dictateur, le censeur, pendant une courte période pour remettre de l'ordre. Ce que fait Cincinnatus, une fois que c'est fini, il revient, il reprend sa charrue et il continue.
Et il le fait une deuxième fois.
Et il le fait deux fois, absolument. Je vois que vous connaissez bien votre histoire romaine.
Non, c'est grâce à votre livre, je précise. Alors, première question d'internaute de cette émission, vous allez la lire, elle s'affiche devant vous, Xavier Darcos.
Ne regrettez-vous pas la disparition progressive du latin et du grec ancien ? Évidemment que je le regrette et profondément. Non seulement parce que je trouve tout à fait dommage que ces langues, qui sont des langues qui favorisent la réflexion sur la construction grammaticale, sont des langues qui sont des langues formatrices, mais plus encore parce que souvent en abandonnant le latin et le grec, on abandonne ce qu'ils disent et ce qu'ils portent. Et c'est se séparer de notre histoire fondatrice, que de ne plus s'intéresser à l'histoire et à la langue latine ou à la pensée grecque, à l'histoire
grecque.
Et
donc il n'est plus possible d'apprendre en même temps maintenant le grec et le latin à l'école.
C'est extrêmement difficile, des élèves très brillants le font, on le fait aussi d'ailleurs.
Et les deux matières ne seront plus sanctionnées au baccalauréat en même temps. En
exactement. Mmh. Il y a moins d'élèves aujourd'hui qui fassent du grec que ceux qui feront du chinois, donc c'est quelque chose d'autre qui est venu. Et pourtant, il y a de nombreuses expériences dans des établissements dits sensibles, dans des zones d'éducation prioritaire, je l'avais encouragé quand j'étais moi-même aux affaires, qui considèrent qu'il faut prendre au sérieux ces élèves et qu'il faut aussi leur faire découvrir le latin ou les langues anciennes, et qui réussissent très bien. C'est une forme d'exercice, c'est une forme de discipline, aux deux sens du terme, à la fois ce qui s'enseigne et une sorte de pression sur soi-même, c'est une discipline qui peut apporter beaucoup.
Mais enfin, vous pourriez faire le relais des professeurs de grec et de latin auprès de Luc Chatel pour favoriser...
Luc Chatel en est sans doute aussi convaincu que moi, mais voilà, les choses sont ainsi faites qu'aujourd'hui, il faut parler anglais, il faut maîtriser l'informatique, il faut voyager, il faut parler de langues vivantes, il faut connaître la géopolitique, il faut comprendre ce qu'est l'économie mondiale, des disciplines nouvelles apparaissent, qui font que, évidemment, les socles des langues anciennes est moins utile au quotidien.
En tout cas, école et jeu en latin, c'était le même mot, et on en est loin aujourd'hui.
Bon, ça dépend du point de vue des élèves. Je crois, au fond, que les élèves sont plutôt contents de ce qui est d'être à l'école, qu'ils s'y plaisent. Est-ce qu'ils considèrent que c'est la même chose que le divertissement ? Ce n'est pas sûr. En fait, c'est vrai qu'en latin, c'était le même mot.
Deuxième question d'internaute.
À votre avis, en quoi les politiques d'aujourd'hui peuvent-ils s'inspirer des dirigeants de la Rome antique ? Bon, il ne faudrait pas trop leur conseiller de s'en inspirer, parce que l'Empire romain était un empire très impérialiste. Hein. Anna Arendt l'a comparé même, vous savez, au Troisième Reich. C'est un empire qui se développe, qui soumet, qui en impose, qui contraint et qui colonise. Même si les Romains visaient à une assimilation, c'est-à-dire ils essayaient de combiner leur culture et leurs croyances avec celle des peuples qu'ils soumettaient, d'où
voilà,
le gallo-romain.
Il y aurait beaucoup à apprendre de la façon dont ils assimilaient, justement, dans notre débat qu'on a eu sur l'identité nationale.
Tout à fait. Et c'est là que je voulais en venir. Il y a, plus qu'on ne croit, il y a eu chez les Romains une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de l'autre, qu'est-ce qu'on fait d'autrui. Est-ce qu'on simplement le soumet, on le met en esclavage, on l'oblige à penser comme moi, ou est-ce qu'on essaie de s'assimiler, de prendre de part et d'autre, et petit à petit d'en faire un citoyen romain ? La question de savoir si les populations colonisées devaient devenir citoyens romains, c'est une question qui a traversé toute l'histoire romaine, et qui finalement a été conduite par l'arrêt de Caracalla, qui décide de donner à tout le monde le titre de citoyen. Donc les Romains étaient peut-être plus ouverts que nous ne le sommes aujourd'hui. Ils ont été plus capables d'accepter l'emprunt, de s'adapter à l'autre et pas seulement
parce
de le soumettre.
Parce qu'on n'était quand même pas romain de la même façon en Narbonnèse que...
Certes, mais on pouvait être citoyen romain.
Mais on était citoyen romain.
Il y a eu très tôt des sénateurs gaulois, issus de Gaule en tout cas. Donc les Romains ont été, malgré leur côté impérialiste indéniable, et militaire et conquérant, ont été très sensibles à l'assimilation des cultures, notamment des religions, des peuples qu'ils rencontraient.
Alors parmi les sujets qui font écho aux préoccupations d'aujourd'hui, c'était des gens qui n'arrêtaient pas d'être en RTT.
De fait, à Rome en tout cas, dans les grandes villes, les jours fériés, les jours de fête sont extrêmement nombreux, c'est presque un tiers de l'année. Et parmi ces jours de fête, il y a des fêtes, des moments où on fait des fastes, n'est-ce pas, où l'on fait on célèbre toutes sortes de cérémonies et qui ont un caractère populaire, mais très formaliste en même temps, et qui occupent beaucoup de l'espace. Et du coup, la religion...
Mais ce n'est pas de là qu'est né le déclin de l'Empire.
Le déclin de l'Empire est venu, je crois, sans aucun doute, de cette mixité, de cette confusion religieuse à un certain moment, de l'apparition de nouvelles croyances, de nouvelles sectes, et notamment d'ailleurs plus tard du christianisme. Mais il est venu surtout de l'expansion elle-même de l'Empire. À un certain moment, l'Empire romain, il va de l'Écosse jusqu'à la Palestine, le Maghreb et les frontières de la Germanie. Et c'est extrêmement difficile d'organiser administrativement, politiquement, ce vaste corps qui bouge de tous côtés, et alors qu'à ses frontières, sur le limès, comme on disait, commençaient à apparaître des pressions qui venaient notamment de l'Est, qui venaient du Caucase, qui venaient au-delà de la Germanie. Et donc, et c'est d'ailleurs par là que viendront ensuite les peuplades qui...
En se servant justement des routes tracées
C'est très juste ce que vous dites. Hein. Par obsession de cette fragilité possible du très grand corps qu'était l'Empire, on a fait des routes, on a tracé le long de la frontière des circulations, on a fait des axes droits qui existent encore. Hein. Mmh. Les routes romaines sont encore visibles dans le sud de la France, par exemple. Mais ça a servi aussi, évidemment, aux envahisseurs. Lorsqu'ils ont pu franchir les frontières, ils avaient des lignes droites pour arriver directement vers l'Italie et vers Rome, et c'est ce qui s'est passé, comme vous savez.
Et puis, les campagnes électorales étaient incessantes.
En campagne électorale, c'est comme nous, avec des...
C'est pire, non?
Oui, c'était des campagnes. C'était des campagnes tout de même, hein, parce qu'il fallait se faire élire, il fallait passer devant
les... Mais pour un an.
Pour un an, et il fallait se faire élire pour un an, et surtout, il fallait se faire réélire avec un comparse, puisque tous les grands postes étaient tenus par deux personnes pour éviter le pouvoir personnel, ce qui était l'obsession pendant toute la République de l'Empire romain, c'est qu'il n'y ait pas un seul homme qui ait tout. Donc il y avait deux consuls, deux tribuns, etc.
Vous ne regrettez pas de ne pas être dans la campagne actuelle ?
Oh, ben, j'y suis quand même un petit peu, j'essaie de voir ce qui se passe, mais j'espère que cette campagne se fera quand même à la romaine, c'est-à-dire à la loyale, et que ce sont des idées et des projets qui s'opposeront plutôt que des colibés et des mauvaises manières, comme parfois on a l'impression que ça voudrait commencer.
Merci beaucoup Xavier Darcos, on se retrouve la semaine prochaine, et c'est là que vous pouvez retrouver cette émission sur le site tfnnews.fr.